Bonjour à tous. Alors, je ne vous cache pas que secrètement, ce matin, enfin cette semaine, je me disais, oui, bon, bah, ça va être nouvelle, c'est le début des vacances, ça va être les nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas trop de monde ce matin, pas besoin de se mettre la pression. Mais franchement, je suis super content et merci Seigneur, merci parce qu'on peut être nombreux ce matin. Voilà, donc c'est avec joie qu'on va partager ensemble un moment autour de la parole. Alors, on va lire ensemble un texte dans 2 Corinthiens. Voilà. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Alors voilà, ces passages de l'Épître aux Corinthiens, ils font partie d'une description par l'apôtre Paul des caractéristiques du ministère chrétien. Ces caractéristiques du ministère chrétien, elles nous concernent chacun personnellement. C'est aussi pour notre ministère à nous. Et ici, Paul, il nous aide à comprendre les enjeux de notre vie ici-bas. Une vie d'épreuve, voire parfois une vie de souffrance. On peut dire que c'est une vie d'ici-bas, en tension avec notre espérance chrétienne d'une vie de là-haut. Une vie d'ici-bas, en tension avec notre espérance chrétienne d'une vie de là-haut. Alors, dans plusieurs versets, on peut lire que Paul, il gémit. Je ne sais pas pourquoi ça y est plus. Voilà. Voilà, c'est ça, la deuxième partie. Voilà, on peut lire que Paul gémit. En fait, au début, je pensais qu'il gémissait dans un sens plaintif. Mais en fait, j'avais pas bien compris. Il gémit, Paul, parce qu'il soupire. Il soupire après quoi? Il soupire après l'éternité. Il soupire parce qu'il voudrait déjà être au ciel. Il soupire dans l'attente de sa rédemption finale. Paul, par la foi, il pointe là où tous les chrétiens devraient pointer, vers le ciel, vers l'espérance du ciel. Et en même temps, quelques versets avant, Paul évoque les afflictions du moment. Il évoque un homme extérieur qui se détruit. La destruction de l'homme extérieur, ça nous parle. Moi, à la maison, on ne loupe pas une occasion de me rappeler que je perds quelques cheveux. Et je dis à ma femme, ça y est, on est des tamalous. C'est-à-dire que des fois, le matin, on se réveille, on dit, ah, j'ai mal ci, j'ai mal ça, les tamalous. Et ouais, voilà. Et puis, plus sérieusement, c'est vrai que chaque lundi, enfin, chaque semaine, on a le mail de l'Église, qui nous rappelle les sujets de prière pour les malades. Voilà, cet homme extérieur, il se détruit. Et Paul, il exhorte les chrétiens de Corinthe à prendre courage et à regarder aux choses éternelles. Donc je crois que nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu, nous vivons dans une période un peu particulière, entre le tout est accompli de la croix et le à venir des nouveaux cieux. On est entre le déjà là de l'effusion de l'Esprit et le à venir de la parousie, la seconde venue du Christ. C'est vrai, on a un avant-goût de la vie céleste, mais c'est clair, il y a une tension entre ce que nous vivons par la foi au quotidien, nos afflictions et les réalités du royaume de Dieu. Paul, dans Philippiens 1, verset 23, il va même dire: « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Dans ce passage, Paul, il voudrait déjà être assis dans les lieux célestes, mais en même temps, et c'est un rappel pour nous. Il a une marche à accomplir. Sa marche à Paul, on se rappelle, sur le chemin de Damas, il est passé de la mort à la vie, c'est lui qui le dit. Mais après, on le voit dans Actes des Apôtres, Paul, dans sa marche, à l'occasion de cette marche, il voit Dieu agir, il voit des miracles, il voit des conversions. Mais en même temps, il traverse aussi d'innombrables épreuves physiques, psychiques, spirituelles, physiques. Voilà, mais Paul, il soupire après l'éternité. Il vise le bout du chemin de notre sanctification. C'est sa destination et c'est aussi notre destinée. Mais bon sang, au quotidien, il faut reconnaître que parfois, c'est difficile, parfois c'est chaud. Je me souviens que plusieurs fois, nos filles nous ont dit plusieurs fois, au moins deux fois, souvent le soir, on a des... Je ne sais pas si encore... On entend bien ? Il n'y a pas les piles, non ? Plusieurs fois, nos filles, au cours de repas, vous savez, vous êtes en train de manger tranquillement, et puis boum, il y a la question spi qui arrive. Et c'est papa, maman, pourquoi Jésus ne revient pas ? Pourquoi il tarde tant ? Ça serait vraiment trop cool s'il pouvait revenir. Je pense que ce retour de Jésus, cette parousie, on y pense tous plus ou moins, parfois, avec plus ou moins d'empressement. Je pense que ça nous arrive hein, qu'on se dise « Seigneur, j'en peux plus, hein, j'aimerais bien que tu reviennes. » Mais la réponse qu'on a donnée avec Amélie, c'était que Dieu est patient. Il attend après la repentance d'un plus grand nombre. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3:9, que je n'ai pas mis dans le diapo. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà, quelle tension parfois, oui, c'est vrai, entre le déjà là et le à venir. Entre le désir de vivre le ciel, pardon, et le désir et la nécessité d'accomplir notre marche ici-bas. Le désir de vivre le ciel et la nécessité d'accomplir notre marche ici-bas. Voilà, donc c'est un constat, il y a une tension. Alors, cette tension, on peut la vivre de manière négative. Et on va prendre un exemple dans l'Ancien Testament. On va lire dans Nombre 11, voilà, 4 à 6. « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. » Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Alors là, il faut se rappeler, le peuple est sorti d'Égypte. Ils ont vu le bras puissant de l'Éternel. Israël est en route vers le pays promis par l'Éternel. Dieu est là tous les jours. Et pourtant, ils sont dans une forme de nostalgie. Ils sont nostalgiques du confort qu'ils avaient. Du confort égyptien, de la bonne bouffe, de la sécurité relative. Voilà. Et au lieu de ça, ils commencent à ruminer en se disant « Nous, c'est marche au soleil, sable et la manne quotidienne. » Mais en même temps, je peux comprendre qu'Israël ait pu ruminer. J'ai pu comprendre qu'ils ont pu se sentir coincés, pressés, en tension entre la pleine liberté qui était déjà là et le futur de la terre promise. Peut-être que nous, chacun, on a pu vivre une joie surnaturelle à notre conversion. Je pense que pour la plupart, c'est ça. On a été touché par le Seigneur, personnellement. On a pu comprendre, incarner la réalité de la croix. On a vécu notre libération, notre sortie d'Égypte. Et en même temps, il faut être honnête, on peut être déçu, on peut être impatient, par rapport à un sujet pour lequel on a prié, par rapport à une charge qu'on a. On peut être troublé, éprouvé par les circonstances, par les épreuves. Parfois, c'est inconfortable d'être en porte-à-faux entre les valeurs du monde et nos valeurs. Des fois, c'est difficile. On peut être fatigué des limitations de notre culte. Voilà, 2 mètres de distance, pas de bisous, pas d'onction d'huile, lavage des mains. On peut être abattu, fatigué, lassé, découragé. Et c'est vrai que ça arrive parfois. Au bon pays promis par Dieu, on peut vite opposer le bon pays de nos vies anciennes. Il arrive parfois qu'au lieu de regarder en haut, en avant, on regarde en bas, en arrière. Mais si on peut la vivre négativement, cette tension, on peut aussi la vivre positivement. Voilà, et on va s'attarder là-dessus. Positivement, quand nous regardons à l'horizon des promesses de Dieu. Regardez à l'horizon des promesses de Dieu, je vais le développer après. Positivement, quand nous maintenons ici et maintenant une dépendance totale à Christ. Et cette tension, elle peut être positive aussi parce qu'elle nous rappelle d'où nous venons et où nous allons. Alors, le peuple, il avait chaque jour la manne tombée du ciel. Voilà, dans le psaume 78. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Le blé du ciel, c'est pareil. Hein. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il y a deux façons de voir la manne. Soit on le voit comme une nourriture monotone, lassante, et on se souvient qu'Israël, il s'est plaint de la, manne. Et qu'après, Dieu a envoyé des cailles parce qu'il voulait de la viande. Et puis les cailles, ils en ont été écœurés. Moi, je suis sûr que si je proposais à mes filles de manger tous les jours McDo, elles diraient oui, c'est sûr. Mais je suis à peu près sûr qu'au bout de 3 semaines, elles diraient « Papa, maman, on veut manger des légumes. » C'est sûr. On peut voir la manne comme ça, comme quelque chose de lassant. Mais on peut aussi la voir comme une nourriture de survie, un cadeau de Dieu. Un témoin de son amour et de la fidélité pour son peuple. On va revenir à nos premières lectures. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, nous avons notre manne. Nous avons les arts de l'esprit. Et ce n'est pas du fast-food. C'est de la bonne nourriture. Ces arts de l'esprit, c'est notre nourriture de survie. Alors, oui, les arts, ça veut dire que c'est partiel. Mais ça veut dire, et je le crois fermement ce matin, que plus c'est à venir, infiniment plus. Et je crois qu'on est encouragé à une sainte patience. On est encouragé à tenir bon. Alors, c'est vrai que, comme l'apôtre Paul, on aspire tous à revêtir la vie avec un grand V. Nous désirons renouveler notre espérance dans les promesses de l'Éternel pour notre temps. Notre temps, c'est celui de l'effusion de l'esprit, mais de l'attente confiante et de la dépendance à Jésus. Voilà, j'ai lu un bouquin de Timothy Keller sur la souffrance, un classique, je vous recommande. Et dans ce bouquin, il y a plusieurs témoignages, parce que ça parle de plusieurs aspects de la souffrance. Et j'ai retenu ce témoignage-là. C'est celui d'une famille qui a été touchée sans arrêt par la maladie. Voilà ce que ces gens disent. Nous en sommes venus à accepter de ne pas avoir la vie stable et confortable que nous aurions souhaité, ainsi qu'à apprendre à ne pas rechercher la stabilité et le confort, mais une dépendance totale de Dieu, source de notre force. Tout lui abandonner demande un effort quotidien. Notre vrai réconfort, c'est la promesse qu'au ciel, notre joie sera encore plus grande. À cause de la profondeur de nos détresses. Nous sommes peut-être boiteux, mais notre foi renouvelée nous remplit d'énergie. Dieu nous a aidés à persévérer. Cela nous donne l'espérance et la force de l'aller de l'avant. Moi, quand je lis ce témoignage, je sens que le Seigneur il nous dit « Surtout, continuons de marcher, ne nous arrêtons pas. » Au verset 3, Paul y rappelle « Oui, on est certes nus comme des vers. » Et ça a été dit ce matin, Jésus il s'est retrouvé nu comme un ver, ce matin il a été dépouillé sur cette croix. C'était Pâques la semaine dernière, on s'est rappelé de la croix. Il s'est retrouvé nu comme un ver à notre place. Il a choisi délibérément par amour de revêtir notre tente de misère. Mais il est ressuscité, il a été revêtu de gloire. Amen. Alors le Seigneur nous appelle à persévérer dans la sanctification, à chercher à revêtir les habits célestes qui sont préparés et à nous les approprier par anticipation. C'est quelque chose qui m'a touché. C'est que souvent on a l'impression que l'Ancien Testament c'est la loi et le Nouveau Testament c'est la grâce. Hein, on a un peu l'impression. En tout cas, pendant longtemps j'ai un peu compris comme ça. En fait, la grâce, elle est présente dans l'Ancien Testament. Elle y est partout, par anticipation. Et nous, aujourd'hui, par anticipation, ce qui nous attend, C'est un jour de libération, un jour de victoire, un jour de gloire. Alors ce jour, il arrivera, même s'il n'est pas encore là. Et nous sommes encouragés à le vivre par anticipation. Alors pour la petite histoire, un de mes amis les plus chers, il m'a toujours impressionné. Vous savez, quand on est petit, il y a deux dates qu'on retient dans le calendrier. Moi, c'était comme ça. C'était le jour de l'anniversaire et Noël. Et vous savez pourquoi ? Voilà. Parce que ben, souvent, c'est l'occasion d'ouvrir des cadeaux. Voilà. Pour moi, quand j'étais petit, c'était l'occasion d'avoir le jeu vidéo autorisé de l'année. Ça pouvait être un petit Wargroove, par exemple. Bref, aujourd'hui, à l'âge adulte, cet ami m'impressionne parce que même si c'est lui qui se fait plaisir, eh bien, il va attendre la bonne date, il va attendre le bon moment. Quel mental ! Moi, je suis incapable de faire ça. Si je me fais plaisir, bon, je me fais plaisir. Et en fait, il m'a expliqué, je lui ai dit, mais comment tu fais ? Et en fait, il aime le plaisir dans l'attente. Il est capable d'anticiper sur le plaisir à venir, il aime le plaisir dans l'attente. Voilà, un jour est prévu, déterminé, où nous pourrons découvrir effectivement notre domicile céleste. Nous connaîtrons la gloire de la résurrection. Alors aujourd'hui, prenons plaisir dans l'attente, confiante. Voilà. Donc, je ne peux pas parler de tension, honnêtement, sans évoquer l'Église. Parce que l'Église, elle est aussi le lieu de tension. Si on regarde l'Église, c'est clair que ça soit l'Église locale ou l'Église dans l'histoire, il y a quand même un tiraillement entre l'épouse parfaite que Christ attend et l'Église, la famille que nous vivons au quotidien. C'est clair. 1 Corinthiens 12, voilà, bon, c'est pas grave, je vais vous lire. Loïc, il l'a rappelé la semaine dernière. C'est comme ça qu'on veut vivre l'Église. En effet, de même qu'il y a un seul corps et qu'il a beaucoup de membres, mais que tous les membres du corps, quoique nombreux, sont un seul corps, en est-il aussi du Christ. Car nous tous aussi, nous avons été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Et nous avons tous été irrigués d'un seul esprit. Dans ce verset, dans ces deux versets, Jésus, Dieu, nous appelle, il appelle son Église à un modèle de fonctionnement. Il en est la tête, nous en sommes le corps, les membres, et tous les membres sont bien irrigués par l'esprit. Les membres s'articulent bien ensemble. En tout cas, ça, c'est sur le papier. Et ouais, c'est pas un scoop. Parfois, ce corps qu'est l'Église, il va bouger comme un athlète. Parfois, il est un peu plus emprunté, il est un peu plus à la peine. Parfois, c'est Kylian Mbappé, et parfois, c'est Pierre Richard. Voilà. C'est un athlète, lorsque samedi dernier, on évangélise vraiment dans un cadre intergénérationnel et qu'on distribue des chocolats de Noël et qu'il y a tous les âges. Pour Pâques. On devait le faire pour Noël, mais. Ouais, c'est par anticipation, vous voyez. Ou encore, elle s'articule bien, notre Église, quand Norbert il prend un temps fou à m'aider à préparer ces quelques minutes de partage. Et parfois, ça peut être Pierre Richard, on l'a tous vécu. Parfois, l'Église, elle est empruntée. Moi, dans ma pratique professionnelle, j'ai rencontré une chrétienne très gentille. Elle adore le Seigneur, mais je lui dis, elle est SEF, elle est sans église fixe. Elle a toujours été déçue. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et c'est triste, parce qu'elle n'a pas son église locale, et ça lui manque. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour ici dans cette assemblée, c'est un ami aussi, il m'a dit, tu sais Vincent, l'Église, c'est le lieu où on se blesse et c'est le lieu où on se pardonne. Alors ce matin, tout simplement, je voudrais nous encourager à regarder avec assurance les promesses du ciel pour chacun individuellement et en Église, en famille. Peu importe les circonstances, ça a été dit ce matin. Peut-être qu'on a besoin de se réapproprier ces promesses. Peut-être que nous avons besoin de relever la tête et de refixer nos regards à l'horizon, vers notre domicile céleste. Alors ce matin, saisissons-nous par anticipation de la réalité du royaume de Dieu. Saisissons-nous chaque jour de la quantité d'esprit de Dieu qui nous est donné. Et juste une petite parenthèse, La manne, une des significations de la racine du mot manne, c'est qu'est-ce que c'est ? Tous les matins, le peuple hébreu, il avait son qu'est-ce que c'est ? Il y a une idée de surprise. Et je crois qu'il y a aussi une idée d'émerveillement. Ne soyons pas blasés du Saint-Esprit. Restons émerveillés chaque matin de ce que Dieu va nous donner. Et saisissons-nous de la joie de marcher ensemble, bien articulés par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. Soyez bénis. Alors je vais prier.